de la parabole à laquelle nous venons ce soir. Eh bien, justement, on arrive à la parabole qu'on appelle traditionnellement la parabole du semeur. Et je vais vous proposer une hypothèse un peu radicale, qui est que cette parabole, c'est la parabole clé dans l'enseignement de Jésus. C'est en quelque sorte la porte d'entrée vers toutes les paraboles. Et on va examiner ça en deux temps. Tout d'abord, une parole sur la parole, et ensuite, l'enjeu de la parole. D'abord donc, une parole sur la parole. Alors, je viens de dire que cette parole, c'est un peu la porte d'entrée vers toutes les... Cette parabole, pardon, c'est un peu la porte d'entrée vers toutes les paraboles. Et vous vous demandez peut-être ce qui me permet de dire cela. En fait, il y a plusieurs indices. D'abord, il y a le fait que Matthieu place cette parabole en premier dans ce chapitre, parmi les sept paraboles dites du royaume. Alors, ce n'est pas sûr que Jésus l'ait raconté en tout premier, mais Matthieu, en tout cas, l'apôtre Matthieu, dans la manière dont il a arrangé son récit, la raconte en premier. Dans l'évangile de Marc également, elle est racontée en tout premier. Donc c'est un indice en tout cas. Un autre indice, c'est le fait que Matthieu place d'abord la parabole au verset 1 à 9, comme on l'a entendu, puis il place l'explication de la parabole au verset 18 à 23, et puis entre les deux, eh bien, il insère un épisode où les disciples de Jésus lui demandent pourquoi il parle en parabole. C'est un peu comme si, pour Matthieu, cette parabole joue un rôle particulier, comme s'il s'agissait d'une parabole qui introduit les autres paraboles. Et c'est pour ça qu'au milieu même de ce récit, il y a ce petit commentaire où Jésus explique pourquoi il parle en parabole. Et on verra dans un instant que le contenu même de la parabole du semeur va aussi dans le sens d'un récit qui est en quelque sorte introductif. Mais un dernier argument qui est assez décisif se trouve non pas ici dans l'évangile de Matthieu, mais dans le texte parallèle de l'évangile de Marc. Donc c'est le même épisode, la même parabole que Marc nous raconte, dans des termes d'ailleurs extrêmement proches. Et dans l'évangile de Marc, lorsque Jésus finit de raconter cette histoire, les disciples lui demandent son sens, lui demandent ce que veut dire cette parabole. Et Jésus leur répond ceci: vous ne saisissez pas cette parabole? Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Et à mon avis, Jésus n'est pas simplement en train de dire, bah dis donc, si vous ne comprenez pas celle-là, qui est pourtant pas très compliquée, c'est vraiment mal parti pour les autres. On pourrait le comprendre comme ça. Je ne pense pas que c'est ça qu'il veuille dire. Je crois qu'il veut dire plutôt, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous n'aurez pas la clé de lecture nécessaire pour comprendre les autres. Donc la parabole du semeur, c'est comme une porte d'entrée. Et en fait, je pense qu'on pourrait même dire dans un sens que c'est une porte d'entrée non seulement vers les autres paraboles de Jésus, mais même dans un sens vers tout l'enseignement de Jésus. On pourrait presque dire qu'avant d'introduire quelqu'un à l'enseignement de Jésus, il faudrait peut-être commencer par lui expliquer cette parabole. C'est certainement pas la seule façon de faire, mais on pourrait presque dire cela. Alors là, je sens que le suspense est intenable. J'entends la respiration saccadée, je vois les gouttes de sueur sur le front de chacun. Mais pourquoi est-ce que c'est la parabole clé? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Et la réponse, c'est que dans cette parabole, Jésus nous enseigne à propos de son enseignement. Il utilise en fait un procédé que dans le jargon littéraire, on appelle une mise en abîme. Alors j'ai vérifié, c'est bien avec un Y, je ne sais pas pourquoi. Une mise en abîme. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Admettons que vous racontiez une histoire à un enfant au coin du feu, et que dans cette histoire, il est question d'un parent qui raconte une histoire à son enfant au coin du feu. Ça fait un effet de miroir, en quelque sorte, et on se trouve en fait dans la situation même qui est racontée dans le livre. Donc, il y a un parallélisme entre ce qu'on vit et ce qu'on raconte. Et en fait, c'est ce que Jésus fait ici. Il est en train d'enseigner les foules, mais il les enseigne à propos de son enseignement. Et la question clé qu'il pose implicitement, c'est celle-ci: comment allez-vous recevoir mon enseignement, ma parole? Est-ce que vous êtes prêt à écouter? Est-ce que vous êtes prêt à comprendre et à mettre en pratique mon enseignement? Or, si les auditeurs de Jésus ne comprennent même pas qu'il leur pose cette question, s'ils ne comprennent pas qu'il est en train de leur dire « comprenez-moi », c'est mal parti. Mais en fait, Jésus est en train de poser un préalable à tout ce qu'il enseigne aux foules, c'est comme s'il disait à ses auditeurs, si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire, vous devez d'abord comprendre la clé de lecture que je vous offre. Quelle est cette clé de lecture? Il me semble qu'elle est ceci. On ne peut pas comprendre l'enseignement de Jésus sans donner sa vie à Jésus. On ne peut pas comprendre l'enseignement de Jésus sans donner sa vie à Jésus. Et c'est le deuxième point. Pour comprendre l'enjeu qui est au centre de l'enseignement de Jésus, il faut d'abord se tourner vers le petit extrait qui se trouve au milieu, entre la parabole et son interprétation, les versets 10 à 17. C'est un texte qui n'est pas très facile, il faut le reconnaître. Je ne vais pas pouvoir le commenter en détail, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus, je ne vais pas entrer dans tout ce qu'on pourrait dire sur ce texte, mais on peut aller au cœur de ce que Jésus dit, il me semble, si on regarde le verset 16. Jésus est en train de citer le prophète Ésaïe, et Ésaïe lui-même se fait le porte-parole de Dieu, qui dit, c'est intéressant d'ailleurs ça aussi, donc Ésaïe se fait le porte-parole de Dieu, Jésus qui est Dieu, en fait le Fils de Dieu, cite Ésaïe qui citait Dieu. Et il dit ceci, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils ont fermé les yeux. De peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurai guéris. » Et là, il me semble qu'on arrive au cœur de ce que Jésus veut dire. Une authentique compréhension de sa parole ne peut que changer la vie. La parole de Jésus, ce n'est pas une parole qu'on entend et puis bah, c'est intéressant, ça enrichit notre vision du monde, c'est des idées intéressantes. Non, c'est bien plus que cela. La parole, non seulement elle est plus que cela, mais elle fait plus que cela. Elle transforme la vie et elle implique un demi-tour. Dans le vocabulaire traditionnel, on dit la repentance. Mais le demi-tour, c'est une très bonne façon d'exprimer. On fait demi-tour. Et d'ailleurs, c'est presque comme si, par cette parabole, Jésus mettait en garde son auditoire, comme s'il leur disait « Attention, si vous m'écoutez et que vous me comprenez, sachez que ça va tout changer. Plus rien ne sera comme avant pour vous, si vous me comprenez réellement. » Donc la parole de Jésus n'est pas une parole qu'on peut comprendre sans changer. Soit on ne change pas, et c'est qu'en fait on n'a pas compris, on a peut-être compris quelque chose, mais on n'a pas compris vraiment. Soit on a compris et on change. Et c'est justement ça que la parabole du semeur illustre. Jésus utilise une image agricole qui était très parlante dans son contexte. Un semeur jette de la semence dans les champs, la semence est répandue partout, mais la question est de savoir si cette semence, elle va prendre et si elle va donner du fruit. Et donc Jésus envisage quatre cas de figure. Alors cas de figure numéro un, figure numéro 1, les grains tombent sur le chemin et sont mangés par des oiseaux et ils disparaissent. Et donc, du point de vue du semeur, c'est un gâchis total. Cas de figure numéro 2, les grains tombent dans la terre, mais pas dans la bonne terre. Ils se dessèchent. La terre n'est pas adéquate pour recevoir ce grain. Du coup, il commence à se développer un petit peu, mais faute de racines bien ancrées, il se dessèche rapidement. Cas de figure numéro 3, les grains tombent parmi les épines, ils sont étouffés, ils ne tiennent pas justement parce que les épines les étouffent. Et enfin, cas de figure numéro 4, les grains tombent dans la bonne terre, prennent racine et donnent du fruit. Et du coup, ils remplissent leur vocation. Cette semence qui a été semée devient un plant qui va donner du fruit et qui sera utile pour la moisson. L'idée centrale de cette parabole, c'est que pour une même semence qui est jetée, qui est semée, les effets ne seront pas les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la bonne terre et de la mauvaise terre. On remarque que c'est la même semence qui est semée. Il y a une terre qui est prête à accueillir cette semence, ce grain, il y a une terre qui n'est pas prête à cela. Or, si on regarde l'explication que Jésus donne de la parabole ensuite, on voit qu'il associe les grains semés à ce qu'il appelle la parole du règne, ou la parole du royaume. Et si on lit les évangiles, on voit que lorsque Jésus parle du royaume, cette parole du royaume, c'est en fait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle par laquelle Dieu veut sauver l'humanité par la personne de Jésus-Christ et la ramener dans une relation de paix avec lui. Et donc la question clé, c'est comment les auditeurs vont recevoir cette parole. Au verset 9, d'ailleurs, Jésus les a déjà interpellés. Que celui qui a des oreilles entende. Concernant ces quatre figures dans la parabole, on voit ensuite l'interprétation que Jésus en donne au verset 18 à 23. Certains entendent la bonne nouvelle, ils entendent la parole du royaume, ils l'entendent, mais ils ne la comprennent pas. Et cette parole du royaume, bien sûr, c'est la parole de Jésus. Et Jésus donne une explication spirituelle de cette incompréhension. Il dit que le mauvais, le malin, vient s'emparer de ce qui a été semé dans le cœur. Alors, dimanche dernier, on a parlé un petit peu de Satan, on a essayé de comprendre un peu plus ce qu'il est, au-delà de toutes les images un peu folkloriques que notre histoire a pu transmettre. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette parole, elle doit être vraiment précieuse si le mauvais cherche à tout prix à s'en emparer, s'il veut empêcher à tout prix qu'elle prenne racine dans les cœurs. Le deuxième cas de figure, le grain qui tombe dans le sol pierreux, c'est celui d'une personne qui, verset 20, entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Et ce verset est très intéressant parce qu'il montre qu'une personne peut réagir favorablement, voire très favorablement à l'enseignement de Jésus a priori, et même éprouver une certaine joie en entendant parler de la bonne nouvelle. Mais il manque des racines. Ça ne dure pas. Et dès que les choses commencent à être difficiles, comme les Israélites dans le désert, comme Anne-Sophie nous en a parlé plus tôt, mais on se dit, oh bah finalement, je préférais ma vie avant. Au moins, je faisais ce que je voulais, j'étais mon propre chef. Et là, non seulement j'ai abandonné le contrôle de ma vie à Jésus, mais en plus, ma vie n'est pas plus facile, voire elle est parfois plus difficile qu'avant. Et si on n'a pas compris la valeur infinie, absolue de la vie avec Jésus, forcément, on risque d'être découragé. Et on risque de tout laisser tomber. Verset 21, « Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. » Le troisième cas de figure, au verset 22, c'est le grain qui tombe parmi les épines. Et là, ce n'est pas tant la souffrance que les inquiétudes du quotidien et le matérialisme qui étouffent la parole. « Les inquiétudes du monde, dit Jésus, est l'attrait trompeur des richesses. » Oui, Jésus, je veux bien, mais bon, il ne faut quand même pas exagérer. Ce qui mobilise vraiment mes forces, mon attention, c'est les besoins du quotidien, c'est le fait de gagner de l'argent, de bien meubler mon appartement, de m'assurer que j'ai la sécurité de l'emploi, etc., etc. Et enfin, le quatrième cas de figure, c'est celui ou celle qui entend la parole et la comprend, et par conséquent, porte du fruit. C'est-à-dire, vit une vie qui reflète cette bonne nouvelle qui en est devenue le centre. Une vie qui reflète une compréhension de ce monde nouveau qu'est le royaume de Dieu et qui implique un demi-tour dans la vie présente. On constate que dans cette parabole, la seule terre qui est bonne, c'est celle que Jésus mentionne en quatrième. C'est la terre qui porte du fruit. Et c'est frappant de constater que cette mise en abîme, ce jeu de miroir dont on a parlé plus tôt, il fonctionne à plein régime alors que Jésus dit cette parabole. C'est vraiment un coup de génie de Dieu. Cette parabole. Parce qu'en fait, les paroles de Jésus vont s'auto-réaliser. Certains, en écoutant Jésus qui leur raconte la parabole du semeur, vont comprendre que ces paroles doivent les amener à changer profondément. Et ce faisant, ils vont prouver la véracité de la parabole du semeur. Ils prouvent qu'ils sont la bonne terre qui porte du fruit. En revanche, d'autres vont écouter sans comprendre. Peut-être qu'ils vont accueillir, dans une certaine mesure, l'enseignement de Jésus. Peut-être qu'ils vont le comprendre intellectuellement, d'une certaine façon. Peut-être même qu'ils vont ressentir de la joie. Mais celui-ci, cet enseignement, ne prend pas racine en eux. Et donc, ils prouvent eux aussi la vérité de la parabole. Ils prouvent qu'ils sont, en fait, la mauvaise terre qui n'accueille pas la semence et qui, par conséquent, ne porte pas de fruits. Pourquoi est-ce que Jésus a raconté cette parabole? C'est pour mettre en évidence le positionnement spirituel de chacun, il me semble. Ceux qui ont compris, ou du moins qui commencent à comprendre, qu'on ne peut pas recevoir la parole sans recevoir Jésus lui-même, eh bien ceux-là vont pouvoir comprendre les mystères du règne des cieux, verset 11. Dans le vocabulaire de l'époque, le mot mystère, en fait, ça ne voulait pas dire quelque chose d'ésotérique, mais plutôt un secret qui a été révélé. un secret qui a été révélé au grand jour. Et c'est pour ça qu'au verset 10, Jésus dit à ses disciples, à ceux qui ont choisi de suivre, et non pas, et non plus aux foules, qu'ils ont compris, eux, le secret de son enseignement. Il ne dit pas ça aux foules, mais à ses disciples seuls. Non pas que ses disciples ont forcément tout compris. D'ailleurs, on voit qu'il demande à Jésus, qu'est-ce que exactement tu voulais dire? Mais le fait même qu'il lui pose cette question, qu'il veuille aller plus loin, qu'il soit prêt à se mettre à l'écoute, à l'école de Jésus, montre qu'ils ont compris, ou en tout cas commencé à comprendre, la parabole du semeur. Ils ont compris la clé de lecture, ils ont compris ou ils commencent à comprendre que pour comprendre Jésus, en fait, il faut se donner à Jésus. On ne peut pas dire j'ai compris Jésus, mais je ne me donne pas à lui. Si on ne se donne pas à lui, c'est qu'on n'a pas compris l'enjeu. On n'a pas compris que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. On n'a pas compris que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui nous réconcilie avec notre Créateur, celui par qui on a le souffle de vie, celui à qui on doit absolument tout. Comment peut-on comprendre tout cela et dire non, c'est bon, Jésus c'est très intéressant, un grand penseur qui a marqué notre culture, mais très peu pour moi. Impossible. Si on ne suit pas Jésus, c'est qu'on n'a pas compris Jésus. Alors attention, il ne faudrait pas mal comprendre ce que je suis en train de dire. Jésus n'est pas en train de dire, si vous faites partie des initiés, vous comprendrez tout. Si vous n'êtes pas dans les initiés, quelle que soit votre bonne volonté, ben vous n'allez rien comprendre, dommage pour vous. Non, cette parabole, elle est aussi un appel. Elle est un appel à comprendre, justement. Elle est un appel à changer de vie. Et on voit que parmi les foules, il y a des hommes et des femmes qui ont commencé à suivre Jésus. Ça ne nous est pas dit explicitement ici, mais on le voit bien dans les évangiles. Cette parabole est un révélateur du positionnement spirituel de chacun, de l'ouverture spirituelle de chacun, un révélateur de l'accueil de la parole. Donc il n'est pas question ici de fatalité, mais plutôt de mettre en évidence la réalité du cœur de chacun. Est-ce que je suis prêt à accueillir la parole de Jésus-Christ? Et vous savez, Jésus n'est pas visible à nos yeux aujourd'hui, certes, mais ce n'est pas pour rien que cette parabole elle a été retransmise par écrit dans 3 des 4 évangiles. Jésus ne s'est pas seulement adressé aux foules de son époque, il s'adresse aussi aux foules d'aujourd'hui. Il s'adresse à elles par sa parole telle qu'elle est transmise dans la Bible et notamment le Nouveau Testament. Et la question qui se pose à nous est de savoir si nous sommes prêts à comprendre cette parole. Je crois que c'est clair dans ce qui a été dit jusque-là. Il ne s'agit pas en premier lieu d'une compréhension intellectuelle. Bien sûr que l'intellect, c'est Dieu qui l'a créé, que l'intellect est pleinement mis en œuvre. Mais c'est une compréhension existentielle avant tout. Est-ce que nous avons entendu l'appel que Jésus nous lance à le suivre? L'appel à changer profondément d'orientation de la vie. Est-ce que nous sommes prêts à faire de Jésus la priorité de nos vies et à faire passer toutes nos vies dans tous leurs aspects par le prisme de cette relation avec Jésus? Est-ce que nous mesurons ce que ça implique? Jésus n'est pas là, encore une fois, pour enrichir notre vision du monde, mais pour nous changer. Il est notre Seigneur, il revendique la propriété de notre vie entière, il est aussi notre Sauveur, celui qui a fait l'impensable à la croix pour permettre que nous soyons aujourd'hui réconciliés avec Dieu. Et s'il revendique notre vie entière, ce n'est pas pour nous priver, mais c'est au contraire pour nous combler de la vie véritable. Et pour nous, ça implique d'arrêter d'être maîtrisé par notre quotidien et de laisser Jésus maîtriser notre quotidien. Parce que si quelqu'un ici croit maîtriser lui-même son quotidien, il y a quand même une grande part d'illusion, il me semble, là-dedans. C'est plutôt souvent le quotidien qui nous maîtrise. Ça implique de tout remettre à Jésus, de se mettre à son écoute et de laisser sa parole nous transformer. Si vous avez des questions sur, si vous ne connaissez pas la Bible et que vous ne savez pas comment, par où commencer, n'hésitez pas à venir m'en parler, ou bien à Paul, ou bien à Anne-Sophie, ou à un ami chrétien qui connaît la Bible, n'hésitez pas surtout à le faire. Je l'ai dit, en un sens, la parabole du semeur, c'est une introduction à Jésus. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque d'écouter sa parole et de la comprendre? Parce que si oui, il faut savoir que rien ne sera plus comme avant. Et je lance un appel à ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus, je suis sûr qu'il y en a ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à comprendre sa parole? Est-ce que vous êtes prêts à changer de vie? Là encore, on serait heureux d'en parler avec vous, si, après le culte, si vous le souhaitez. Maintenant, pour nous qui avons déjà cru en Jésus, on a peut-être l'impression que le quotidien, ou les épreuves de la vie, ou les tentations multiples de notre culture, ont tendance à nous éloigner de lui. Et pour nous, je crois que cette parabole est aussi une piqûre de rappel. Il ne faudrait pas que nos renoncements nous fassent ressembler à ceux qui, en fait, n'ont pas de racines en eux. Il ne faudrait pas que nos découragements sèment le doute sur notre appartenance à Jésus. Que cette parabole soit au contraire pour nous un renouvellement de l'espérance, une nouvelle porte d'entrée sur la personne, la vie et l'œuvre de Jésus, sur son enseignement, sur ses paroles qui, comme l'a dit l'apôtre Pierre cité dans l'évangile de Jean, sont les paroles de la vie éternelle. Cette parabole, donc, c'est un révélateur de l'authenticité de la foi, mais c'est aussi l'occasion d'un nouveau départ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu ne t'es pas contenté de proclamer la bonne nouvelle aux foules de l'époque qui ont vu Jésus de leurs yeux, mais encore aujourd'hui, 2 millénaires plus tard, tu nous la proclames. Nous avons ces écritures, la Bible, qui nous parle de toi, qui nous ont été transmises par les apôtres et par lesquelles nous pouvons te connaître. Merci. Et ne permets pas que cette parole entre par une oreille et sorte par l'autre, mais que nous puissions la faire pleinement nôtre, que nous puissions l'intégrer pleinement, parce que cela voudra dire que nous changerons forcément, que nous ferons demi-tour pour te suivre. Amen.